Alléluia, gloire au Seigneur. Nous ouvrirons la parole du Seigneur dans le livre des Chroniques, le premier livre des Chroniques, chapitre 19 et au verset 1er. Et voilà ce que nous lisons. Après cela, Nachash, roi des fils d'Ammon, mourut, et son fils régna à sa place. David dit : Je montrerai de la bienveillance à Hanun, fils de Nachash, car son père en a montré à mon égard. Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, auprès de Hanun pour le consoler, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanun : Penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs ? N'est-ce pas pour reconnaître la ville et pour la détruire, et pour explorer le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi ? Alors Hanun saisit les serviteurs de David, les fit raser, fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David, que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ses hommes, envoya des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion. Et le roi leur fit dire : Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. Les fils d'Ammon virent qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Et Hanun et les fils d'Ammon envoyèrent 1000 talents d'argent pour prendre à leur solde des chars et des cavaliers chez les Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Maaca et de Tsoba. Ils prirent à leur solde 32 000 chars, et le roi de Maaca avec son peuple, lesquels vinrent camper devant Medeba. Les fils d'Ammon se rassemblèrent de leur ville et marchèrent au combat. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Les fils d'Ammon sortirent et se rangèrent en bataille à l'entrée de la ville. Les rois qui étaient venus prirent position séparément dans la campagne. Donc nous arrêtons là pour l'instant. Mais ce qui nous intéresse, il faudrait lire jusqu'au chapitre 20 et au verset 3 pour connaître tous les développements de cette affaire. Mais pour l'instant, ce que nous avons lu nous suffira. Donc, vous avez dans ce texte deux personnages principaux qui s'opposent par la force de ce qui se produit et qui sont donc particulièrement significatifs pour nous. Et d'une part, vous avez Hanun, fils de Nachash, l'ammonite, dont certains caractères, dont certaines réactions nous sont décrits et qui sera pour nous l'image du pécheur rebelle qui se dresse contre Dieu. Et d'autre part, vous avez David, roi d'Israël, il nous a aussi parlé de certains de ses caractères, de certaines de ses réactions, et nous pourrons voir également qu'il est par là une image du Seigneur Jésus, en particulier dans ses rapports avec les hommes. Car si ces événements historiques nous sont cités, ce n'est pas simplement pour nous faire part de certaines choses, certains événements qui se sont produits à un moment ou à un autre, mais c'est pour nous faire comprendre de grandes vérités qui sont nécessaires au salut de notre âme, à la bénédiction de Dieu et à l'exaucement de nos prières. Et ce qui est remarquable encore dans ce texte, c'est de voir combien Hanun a manqué les occasions qui se sont présentées à lui, les unes après les autres, l'une après l'autre, alors qu'il aurait eu tout le loisir de les saisir. Et ça nous parle des occasions que Dieu donne dans nos vies à chacun de venir à lui et qu'il ne nous faut pas manquer de saisir. Il faut les manquer à aucun prix, ces occasions-là. Et par la suite de notre message, nous pourrons donc développer trois choses. Nous parlerons d'Hanun, une image du pécheur rebelle insoumis à Dieu. Ensuite, nous parlerons de David, une image du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous parlerons aussi des occasions qu'Hanun aurait dû saisir. Donc, en premier, voici Hanun, image du pécheur insoumis à Dieu. Considérez d'abord que ce garçon est présomptueux et qu'il est orgueilleux. C'est ce qu'on le voit dès le départ. Son père était mort. Son père, c'était un homme d'âge, âgé, expérimenté. C'était un bon roi, de toute évidence, qui avait réussi à maintenir ce bien précieux entre tous, qu'est la paix avec ses voisins. La paix avec ses voisins, ça vaut quelque chose. Mais voici un fils qui arrive et qui ne tient aucun compte des expériences de son père. Alors lui, il prétend agir autrement, lui qui ne connaît pas grand-chose, il ne connaît que si peu de choses, et le voilà qui cherche vraiment la guerre avec David. Et la suite de l'affaire nous montre combien son orgueil et sa présomption sont grands. Et nous le voyons aussi, d'ailleurs, à la couronne d'or qu'il fait fabriquer, parce que regardez au chapitre 20, au verset 2, il est marqué « David enleva la couronne de dessus la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or. Elle était garnie de pierres précieuses. » Donc ça veut dire que c'était cette couronne qui s'était fait fabriquer, c'était un engin de plus de 40 kilos, bon courage pour porter ça sur sa tête, hein, déjà donc. Mais pourquoi avoir ça ? Ben pour avoir une couronne plus grande et plus précieuse que celle de tous les rois voisins, alors qu'en réalité, lorsque vous examiniez la situation à l'époque, son royaume était plus petit et plus faible que la plupart des royaumes du voisinage. Et c'est cet orgueil qui va expliquer l'attitude stupidement obstinée qu'il va avoir par la suite et qui va amener à la défaite, la déchéance progressive de son royaume et de sa position. Et c'est des choses qui étaient prévisibles, hein. Et cependant, il n'a pas su les discerner parce que, justement, l'orgueil, c'est quelque chose qui nous aveugle. Hein, c'est bien ça le problème. C'est la folie de l'orgueil qui est dans le cœur humain, vous savez, et qui fait que les hommes veulent mener leur vie à leur propre guise sans se soumettre à Dieu. C'est ça qui les pousse à se proclamer eux-mêmes rois, à se mettre sur la tête de lourdes couronnes, hein, à se croire maîtres de leur destin, maîtres de leur avenir, alors qu'en réalité, ils sont tellement faibles et tellement vulnérables. Et combien il est vrai que l'orgueil, c'est quelque chose qui est chevillé au cœur de l'homme. On le voit, hélas, et la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute, mais que l'humilité précède la gloire, et qu'il est donc bien indispensable de s'humilier de soi-même sous la main puissante de Dieu. Ensuite, une deuxième chose que vous voyez chez Anna, c'est quelqu'un qui se laisse facilement influencer par son entourage. Hein. Ce qu'on voit dans ce verset 3, donc, il y a ses chefs qui sont là, qui viennent vers lui, et qui lui donnent leurs conseils, qui donnent leurs avis. Alors c'est vrai que c'est une bonne chose que d'entendre avoir des conseillers, hein, d'écouter les conseils. Les opinions des uns ou des autres peuvent parfois nous être d'un grand secours. Mais il faut savoir aussi faire la part des choses. Il faut faire la part des choses et s'attacher à ce qui est juste et s'attacher à ce qui est bien. Il faut rechercher les bonnes compagnies, hein, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, comme il est marqué. Hein, donc il faut s'entourer de ceux qui sont de bons conseils. Vous savez, on sera toujours influencé par notre entourage. Ça, on n'y peut rien. Par contre, on peut choisir notre entourage pour savoir comment on va être influencé. Et ça, c'est important. Hein. Mais qu'en est-il donc de ceux qui entourent Anna ? Ce sont des gens qui accusent David d'intentions mauvaises. Et ça, c'est seulement le produit de leur imagination. C'est-à-dire, en fait, ils l'accusent sans preuve de ce qu'eux-mêmes auraient certainement fait à sa place. Voilà. Hein. Donc, c'est souvent comme ça, vous savez. Hein, souvent, c'est, je sais pas moi, c'est les maris infidèles qui vont être jaloux, par exemple. Ou bien c'est toutes sortes de choses de ce genre-là. Hein. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils imaginent que les autres sont comme eux. Hein. Donc voilà, c'est un problème. Et là encore, vous voyez la faiblesse et la folie de ceux qui se laissent conduire, hein, comme Anna se laissait conduire par les avis dominants, hein, donc par les idées, les opinions des hommes, et qui suivent sans réfléchir la majorité bêlante d'un monde insensé qui court à sa perte parce qu'il ne veut pas obéir à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, voilà que c'est la nature qui est devenue la divinité. Hein. Aujourd'hui, voilà, c'est l'écologie qui devient le dieu de tout le monde. Avec l'écologie, on va sauver le monde. Excusez-moi, on ne sauvera rien du tout. Hein. Je ne suis pas contre l'écologie, ce n'est pas le problème. Mais vous savez, je n'ai pas encore vu qu'ils étaient en train de construire des chars pour aller en Ukraine qui fonctionnent à l'électricité. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça marche, hein. Vous m'excuserez. Mais, hein, par exemple. Hein. Donc voilà, c'est tout. Hein. Donc voilà, ils sont tellement nombreux, ceux qui ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas suivre la parole de Dieu parce que ça signifierait pour eux ben, voilà, des railleries, de l'incompréhension de la part de leur entourage. Eh oui, c'est leur entourage. Hein. Donc voilà, parce qu'il leur faudrait aller à contre-courant de ce qui est généralement toléré et admis autour d'eux. Mais en fait, ils ont trop peu de courage pour faire ce qui est juste. Hein. Et voici un homme aussi, une troisième chose que vous pouvez voir chez lui, c'est qu'il interprète mal les meilleures intentions. Hein. David a de très bonnes intentions. Ces intentions vont être interprétées à l'envers exact de ce qu'elles sont. Hein, donc, le plus mal possible. C'est donc les efforts pourtant louables, généreux de David envers lui, envers son pays, parce que David avait en vue quoi ? Ben, il avait en vue l'établissement et le raffermissement de bonnes relations pour l'avenir entre ces deux pays. Hein. C'est ça qu'il désirait. Et ça aussi, c'est encore une image de la façon dont le pécheur rebelle considère Dieu. Ah, il se méfie de Dieu. Il lui attribue de mauvaises intentions. Voilà. Il considère que Dieu est un être lointain, indifférent, insensible en quelque sorte. Ou alors, un Dieu coléreux, un Dieu vengeur, un Dieu intraitable. Ou alors, voilà, un être aux exigences absolument démesurées, impossibles. Vous savez, avant de me convertir, pourtant je voulais recevoir Jésus comme sauveur, mais surtout pas comme Seigneur. Parce que j'imaginais que Jésus, que Dieu allait m'obliger à faire tout ce que je voulais pas et m'interdire de faire ce que je voulais. Donc voilà, je considérais que certainement, de donner sa vie à Dieu, ça allait aboutir à une vie d'obligation, une vie de loi, une vie de... Alors que c'est pas du tout ça, c'est tout différent. Vous savez, on interprète mal ce que Dieu veut et ce que Dieu désire pour nous. C'est vrai que vous avez hélas beaucoup de religions ici-bas qui n'ont pas arrangé les choses depuis des siècles. Ils ont donné du Seigneur vraiment une image déformée. Mais malgré tout, il n'en est pas moins vrai que ceux qui cherchent le Seigneur avec sincérité ne vont pas se laisser arrêter par tous ces clichés, par ces fausses images, pour qu'ils puissent, eux, découvrir l'amour, la grâce et les consolations que le Seigneur donne à ceux qui viennent à lui de tout leur cœur. Amen. Amen. Je reviens à Anna. Donc, voici un homme qui agit très mal envers les messagers de David. Ça, c'est la quatrième chose, hein, ce qu'on voit au verset 4. Ces hommes, donc, étaient les ambassadeurs. Les ambassadeurs de David, et ils méritaient à cet égard des honneurs particuliers, même si on n'était pas forcément d'accord avec eux. C'était le droit international à l'époque, et autrefois ça l'est encore. Hein. Et de plus, ces hommes étaient porteurs d'une bonne nouvelle. Ils étaient porteurs d'un bon message de la part de leur roi, qui était un roi puissant. David était un roi puissant, donc à l'époque, et avant de mal les juger, et encore plus de mal les traiter, la simple prudence, la justice la plus élémentaire aurait consisté à les écouter, à les interroger, à examiner leur comportement pour voir si les accusations avaient le moindre fondement. Voilà. Mais aucune de ces précautions de base n'a été prise. Sans ménagement, ils ont été maltraités, humiliés, ridiculisés d'une manière totalement inutile et sans aucune gloire pour ceux qui avaient agi ainsi. Et ça, je dirais que c'est encore une image de la folie de beaucoup d'hommes. Lorsque un témoin de Jésus-Christ va leur parler de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Quand un messager du Seigneur vient leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Quand un ambassadeur de Christ vient leur apporter le message de Dieu, alors ils n'examinent pas. Ils n'essayent même pas de vérifier si ça peut être vrai. Ils ne considèrent même pas le respect qui devrait être dû au témoignage, à l'engagement d'une personne qui parle comme cela. Non, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent. Ils refusent d'examiner. Ils méprisent. Ils vont laisser cours à leurs idées préconçues. Ils vont railler, ils vont se moquer, ils vont ridiculiser. Éventuellement, ils vont persécuter, on le voit. Et c'est ainsi qu'à cause de leur propre folie, ils passent à côté des bénédictions que Dieu voudrait pour eux. Voilà, hélas, ce qui se passe. Et puis une cinquième chose encore que nous voyons après, c'est que cet homme, il va réaliser qu'il a fait une grosse bêtise. Il va réaliser que ce qu'il a fait, ça va avoir des conséquences. Donc, il est conscient. Il est conscient à un moment, verset 6, on le voit, il est conscient de ce mal, mais il ne veut pas s'en repentir. Voilà. Il est conscient de son péché, mais il ne veut pas s'en repentir. Et il a bien compris qu'il a fait quelque chose de particulièrement blessant, mais il s'endurcit dans sa position et il va chercher une autre solution ailleurs. Que d'hommes qui sont ainsi. Tout plutôt que de reconnaître leur tort et de s'excuser. Il y avait ce proverbe qui dit « Tant de gens préféraient être fusillés qu'humiliés ». Ben oui, c'est vrai. Donc, pourquoi? Bien parce que ça impliquerait de leur part un changement d'attitude. Et lui aussi, ça voudrait impliquer un changement d'attitude envers David. Et de toute évidence, il ne le voulait pas. Donc, c'est une attitude totalement opposée qu'on voit là. Et ça, c'est encore une triste réalité de la nature humaine, sur laquelle la parole de Dieu nous fait mettre le doigt. C'est que les hommes agissent mal, les hommes désobéissent à Dieu, et il peut leur arriver de le faire d'une façon inconsciente, c'est vrai. Mais il y a bien des domaines où ils sont très conscients de faire ce qui déplaît à Dieu et à ses commandements, et ils le font quand même. Hein. Alors, non content de cela, non, ils s'en cherchent encore des justifications, je ne sais pas, dans leur entourage, dans les circonstances. Ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas revenir au Seigneur. Et voilà la triste réalité d'une multitude qui sont ainsi ici-bas. Amen. Et puis voici une sixième chose encore, hein. C'est que dans les versets 6 et 7, voilà cet homme qui s'endurcit dans son péché. Ayant refusé de reconnaître ses torts, ayant refusé de faire la moindre ouverture, la moindre concession, ayant agi avec la mauvaise foi la plus évidente, le voilà qui est entraîné dans l'engrenage de son péché. Parce que c'est comme ça que ça se passe, hein. Et voilà qu'il commence à s'opposer à David, à faire des préparatifs de guerre contre lui. Voilà encore une grande preuve de folie. Et la suite du passage montrera bien qu'il va s'agir en quelque sorte de la lutte du pot de terre contre le pot de fer. Hein. Donc voilà, vous savez, quelle folie chez les hommes qui prétendent s'opposer à Dieu, qui s'obstinent dans leur erreur, dans leur incrédulité, qui en arrivent à lutter contre l'évangile, lutter contre l'œuvre de Dieu par leurs paroles ou par leurs actes. Qu'est-ce qu'ils espèrent donc? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Dans peu de temps, ils vont passer dans l'éternité. Hein. Et là, qu'est-ce qui va se produire pour eux? Ils auront rendre compte à la barre du jugement. C'est ça qui les attend. Et la sentence de perdition qui va être prononcée sur eux ne sera que pleinement justice de la part du Tout-Puissant. Et c'est pour ça qu'il est tellement nécessaire d'abdiquer quelque part, de venir à lui dès maintenant dans la foi et dans la repentance véritable. Amen. Et nous voici donc maintenant avec notre deuxième grand point, les caractères de David. Caractère de David, une image de Christ. Et nous voyons quoi? Dès le départ, combien il éprouve de la bienveillance pour l'homme dans le malheur. C'est ce qu'on discerne bien au verset 2, où nous voyons ses bonnes intentions. Nous voyons les bons désirs qui sont en lui. Il veut lui faire du bien. Et il cherche comment il pourrait lui faire le meilleur bien. Et il en est exactement ainsi. Et encore plus du Seigneur, infiniment plus encore. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est venu de lui. C'est personne qui n'a eu l'idée en dehors de lui. Cette idée de bonté est née dans son propre cœur divin. L'amour de Dieu a été manifesté en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Ou encore, ce que je veux, dit le Seigneur, est-ce la mort du pécheur? Non, bien sûr. N'est-ce pas qu'il se convertisse et qu'il vive? Voyez l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Et on pourrait ainsi multiplier les passages de l'Écriture sainte. Vous savez, il faut être conscient que nous avons un Dieu qui éprouve une immense bienveillance envers tous les hommes, en particulier ceux qui sont dans la souffrance et dans le malheur. Amen. Amen. Ensuite, une deuxième chose qu'on voit, ce que fait David, c'est qu'il envoie des messagers qui sont chargés de paroles de paix et de consolation. C'est ce qu'on a vu dans verset 2. Là encore, personne ne l'obligeait à faire cela. Hein, donc, et il l'a fait par pure bonté d'âme, à cause de son intérêt affectueux. Il y avait vraiment, pour un nain, de quoi être réconforté. Il y avait de quoi être encouragé. Il y avait de quoi établir, comme nous l'avons dit, de fructueuses relations avec le roi d'un pays voisin, si prospère, si puissant et si bien disposé. Hein ? Il y avait vraiment de quoi se préparer à un bon avenir. Et je dirais, qu'en est-il pour les messagers de l'évangile que le Seigneur envoie ? Parce qu'il les envoie aussi. Hein. Déjà, il envoie le Consolateur, l'Esprit de vérité, ce Consolateur qui agit pour parler aux consciences, parler aux cœurs, pour parler aux âmes. Hein. Et puis, encore, il envoie avec ce message en disant « Car je connais les projets que j'ai pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Et ce message, c'est encore « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie. » Et qu'elle soit dans l'abondance. Amen, amen. Voyez encore une troisième chose, c'est que David, c'est quelqu'un qui se tient informé de tout ce qui se passe. Hein, on voit dans le verset 5, il n'y a rien en ce qui concerne ses serviteurs, dans cette mission délicate, rien qui lui échappe. Et ça aussi, ça nous parle de notre Dieu qui nous dit, il t'entoure par devant et par derrière. Là, il parle à ses fidèles, bien sûr, en disant cela. L'Éternel a continuellement les regards sur ceux dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Hein, donc, et voici, je suis avec vous tous les jours, dit-il à ses disciples, donc jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Il se garde informé, il est attentif, il a l'œil sur les siens et le fait continuellement. Ensuite, que voyons-nous encore ? Eh bien, nous voyons après que David, c'est quelqu'un qui prend soin de ceux qui sont partis pour son service. Hein, donc, lorsqu'il se retrouve maltraité de cette manière, hein, qu'il se retrouve obligé de fuir, de traiter d'une façon honteuse, eh bien, David va envoyer des gens avec des instructions et des moyens pour les tirer de leur confusion, pour les tirer de leurs difficultés. Pourquoi ? Eh bien, parce que Dieu dit, celui qui me touche, touche à la prunelle de mon œil. Alléluia. Et puis quand on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, eh bien toutes choses nous seront données par-dessus. Donc on sera aussi secouru. Et l'on peut se dire, ne crains rien. Ne crains rien, dit le Seigneur, car je suis avec toi. Amen. La cinquième chose que je note, c'est la patience remarquable dont David use envers Anna. Donc, en même temps qu'il a des égards et des soins pour ses propres serviteurs, eh bien, donc, ceux-ci donc, ont pu faire confiance à David, qui ne les a pas laissés tomber, qui n'a pas laissé tomber leur cause. David, dans un même temps, donne à Anna le temps de réfléchir et le temps de se repentir. Vous savez, les gens qui disent, mais pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas ? Hein, j'ai encore parlé avec quelqu'un là qui disait, oui, mais ouais, c'est une situation vraiment d'injustice, il le considérait comme tel, de la part de quelqu'un qu'il n'avait pas traité, et puis maltraité. Il dit, pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas ? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas ? Il dit, tu sais, heureusement pour nous tous, Dieu use de patience. Hein. Dieu use de patience envers tous, hein, ne voulant pas qu'aucun périsse, envers moi, envers toi, puis envers lui aussi, Dieu use de patience. Hein. C'est pour ça qu'il faut nous remettre entre ses mains. Le principal, c'est que Dieu nous sorte de là. Hein. Et puis après, la vengeance appartient à Dieu. Le règlement de la justice, c'est Dieu qui s'en occupe. Hein. L'Écriture dit encore, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Amen. Alléluia. Et c'est vrai qu'il le fait en prenant soin des siens. Amen. Après, vous remarquez encore une autre chose que David fait, c'est qu'il fait une guerre de défense. Il ne fait pas une guerre d'attaque. Dans un premier temps, il ne fait pas une guerre d'attaque, il fait une guerre de défense face aux rebelles qui s'attaquent à lui. Donc, au verset 8, il est marqué, lorsque David apprend que le roi des Ammonites, donc Hanun, a pris à sa solde toutes sortes d'autres armées, en particulier plusieurs armées de Syriens, hein, donc, c'est à ce moment-là seulement que David réagit par rapport à cette attaque qui se monte contre lui. Et puis après, lorsque vous voulez regarder la suite, bon, c'est au verset 15, après la victoire, on voit Joab qui, il aurait pu poursuivre son avantage. Hein. Il avait remporté la victoire, mais non. Il rentre à Jérusalem, verset 15. Il rentre dans la ville. Donc, et ça nous parle de quoi ? David ne voulait pas détruire les Ammonites. Hein. Il aurait pu profiter de l'occasion, puis c'était fini pour eux. Non, il ne voulait pas de ça. Et de la même façon, Dieu répugne à frapper le coupable, vous savez, ce n'est pas son désir. Il ne le fait qu'en toute dernière limite, pour défendre son œuvre et pour, autant que possible, avons-nous dit, amener les gens à la repentance. Et puis, au verset 7, malgré tout, pardon, au verset 7e point, malgré devant l'obstination du péché, eh bien, il y a un temps où le jugement est quand même envoyé. Et c'est pour ça qu'au chapitre 20, nous allons lire ces trois versets qui en sont là. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une forte armée, alla ravager les pays des fils d'Ammon et assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Joab bâtit Rabba, la détruisit. David enleva de la couronne de dessus la tête de son roi, la trouva du poids d'un talent d'or, était garnie de pierres précieuses, on la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il fit sortir les habitants et les mit aussi au pic et au fer et aux haches. Il traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Donc voilà. Ben oui, c'est vrai, devant l'attitude d'Anna qui persévère dans le mal, David va finalement attaquer son royaume et le déposséder de sa royauté. Et Anna va être obligé de fléchir le genou et de se soumettre. Vous savez, un jour viendra où tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Pourquoi est-ce qu'ils confesseront tous? Parce qu'ils seront convaincus avec puissance par l'évidence de sa position. Et puis à ce moment-là, eh bien, ils ne pourront pas faire autrement que de confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est vrai, et c'est une annonce donc du juste jugement qui vient et de la pleine manifestation de la justice, de l'autorité et de la gloire du Seigneur. Il est tout puissant, élevé, celui qui jugera toutes choses. Amen. Amen. Alors parlons un petit peu maintenant, on l'a dit, des occasions qu'Anna aurait dû saisir. Et ça, c'est une image de ces occasions que le Seigneur tend à tous les pécheurs et qu'il leur faut saisir. C'est vrai. Saisir pour être pardonné, pour être absous de leurs péchés, saisir pour que leurs prières soient exaucées, saisir pour que leur vie soit bénie et surtout pour que leurs âmes reçoivent le salut éternel. Amen. Déjà, la première occasion, eh bien, c'est évidemment celle que David lui a tendue au travers de l'envoi de ses messagers pour établir avec Anna une alliance de paix qui était basée sur la reconnaissance et qui aurait été suivie de toutes sortes de conséquences bénéfiques, toutes sortes de conséquences fructueuses et bénies. Amen. Et ça, c'est ce que Dieu veut faire dès le départ, hein. C'est qu'il s'adresse à quelqu'un, et le Seigneur, eh bien, envoie ses témoins, il envoie des croyants fidèles, il envoie des prédicateurs, il envoie des ministères, dans ce but, établir une alliance de paix, une alliance de grâce, une alliance dans laquelle les promesses de Dieu se réalisent. C'est son désir premier, c'est l'occasion qu'il tend, et c'est aujourd'hui encore cette occasion est tendue. Et puis après, une autre occasion, eh bien, c'est celle... Lorsqu'il a péché contre David et contre ses messagers, ses envoyés, donc, celle de cette période de patience qu'on voit chez David. Hein. Regardez au verset 5, il ne réagit pas au quart de tour. Il envoie des gens à leur rencontre et le roi leur fit dire « Restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé et revenez ensuite. » Donc il se donne le temps, voyez-vous. Il ne réagit pas directement, de but en blanc, comme cela. Donc, ça veut dire aussi qu'il donne à Anna le temps de se repentir, de réfléchir, de reconnaître l'erreur qu'il a commise, le péché qu'il a fait, quand il s'est rendu compte combien il avait été odieux dans ses agissements envers David. Il aurait largement eu le temps d'envoyer à son tour une ambassade et les relations auraient pu être rétablies et de bonnes choses auraient encore pu s'en suivre à ce moment-là. Et ça, ça nous amène à réaliser aussi la patience de Dieu. Pendant de longues années, bien souvent, et trop souvent malheureusement, les hommes n'y prennent pas garde. Combien la patience et la bonté de Dieu doivent nous pousser à la repentance ? Et que vois-je encore ? Voici l'occasion d'une défaite qui aurait dû l'amener à réfléchir. Verset 8 au verset 15, il est décrit que les efforts d'Anna qu'il avait faits ont abouti à une défaite. Eh oui, hein. Donc ils étaient dans une position favorable, ils le pensaient, hein. Donc ils pensaient qu'ils allaient avoir la victoire, mais ils ont été défaits. Et ça, ça aurait dû amener à penser, surtout que David n'avait pas encore poussé Anna dans ses derniers retranchements, mais que nous l'avons dit, l'armée d'Israël était rentrée sans pleinement profiter de sa victoire. Et ça, ça nous parle de certains échecs, de certaines difficultés que le Seigneur permet dans nos vies pour nous faire réfléchir et nous amener à nous tourner vers lui sans nous obstiner plus longtemps. Vous savez, il y en a comme ça, dans la tête, ils vont se dire, ah, je vais faire ceci, ah, je vais faire cela, je n'ai pas besoin du Seigneur, moi j'ai mes projets, voilà ce que j'ai décidé, voilà ce que je vais vivre. Et puis voilà que Dieu permet l'échec pour eux. Voilà que ça ne marche pas, et voilà qu'ils se sont plantés, et voilà qu'ils n'arrivent pas, et voilà qu'ils ne peuvent pas s'en sortir par leur propre force. Et ça, c'est Dieu qui le permet. Pour qu'ils apprennent et qu'ils comprennent que Dieu veut encore nous accueillir et que nous avons besoin de nous tourner vers lui. Et donc, il nous laisse encore de la relâche pour considérer ces choses-là. Et si je poursuis encore, eh bien, une autre occasion, que vous voyez dans le chapitre 19, du verset 16 au verset 19, que je ne lis pas là, mais c'est l'occasion de ce qui est arrivé aux Syriens, ses alliés, les Syriens, qui étaient tellement forts, qui était plus fort que lui, hein, plus fort que lui, Anna, donc nation beaucoup plus puissante que les Ammonites, mais qui ont été vaincus. qui ont été vaincus dans ce moment-là. Et ça, ça aurait évidemment dû faire réfléchir Hanun et l'amener à faire la paix avec David sans plus attendre, l'amener à envoyer une ambassade. Certainement, il aurait pu s'en tirer beaucoup mieux. Vous savez, on devrait aussi réfléchir lorsqu'on voit ce qui arrive à d'autres. Vous savez, vous avez d'autres aussi, ben, ils ont eu des idées, ils ont voulu faire des choses, et là encore, ils sont arrivés à l'échec. Et là encore, ils sont même à la catastrophe des fois. Hein. Et on devrait réfléchir à ça. Et se dire, mais oui, mais celui-là, eh bien, ben, il n'était pas pire que moi. Hein. Et puis il est arrivé à l'échec, il est arrivé à cela. Et vous savez, ceux qui savent tirer des leçons de ce qui arrive à d'autres, eh bien, ils ont un grand avantage dans leur existence, surtout si c'est pour les amener à se tourner vers Dieu. Amen. Et puis, il aurait dû discerner le temps où les rois se mettent en campagne. Eh oui, chapitre 20, verset 1er, l'année suivante, au temps où les rois se mettent en campagne. Ah, mais là, il aurait dû se dire, oui, mais attends, maintenant, ça va être mon tour. Maintenant, ça va être mon tour. Hein, avant que David n'envoie son armée, son rouleau compresseur qui va nous anéantir, nous battre à plate couture, eh bien, je peux encore envoyer une ambassade rapidement. Il faut revenir le temps, il faut revenir les choses. Vous savez, on vit dans un monde et le monde devient de plus en plus catastrophique. Hein, le monde devient de plus en plus lamentable, de plus en plus malheureux. On essaie de nous faire croire bien des choses, mais la réalité, c'est celle-là. Hein, aujourd'hui, eh bien, encore une fois, eh bien, bon, je ne vais pas m'étendre sur toutes les situations qui nous se produisent maintenant et qui nous montrent cela, mais en tout cas, ça nous montre la direction vers laquelle on va, c'est tout. Et cette direction, eh bien, voilà, il n'y a pas d'autre solution que le Seigneur. Hein, si quelqu'un me dit, ben voilà, j'ai une autre solution que le Seigneur, bien qu'il me le prouve. Mais en réalité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autre. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre que le jugement vienne. Ce n'est pas la peine d'attendre que ça empire encore. Hein. Et l'importance de se tourner vers le Seigneur réellement. Hein, ce qu'Anna aurait pu faire. Il aurait pu dire, mais voilà, en dernière ressource, je t'offre ma couronne. Hein, je me rends à toi complètement. Et puis, qu'est-ce qui serait passé? Ben, il aurait trouvé que David était un roi de grâce et de miséricorde. Hein, parce que c'est ce qu'il a montré aussi bien des fois. À combien plus forte raison, le Seigneur? Et la question, elle est là encore ce soir, de se poser, où en êtes-vous? Où en es-tu? À quelle occasion? Quelle sorte d'occasion Dieu te met-il encore dans ta vie? Dieu met-il encore devant toi ce soir? Hein, donc, est-ce que tu veux saisir l'occasion que Dieu te donne aujourd'hui même? De manière à ce que le Seigneur puisse manifester cette grâce envers toi, puisse manifester ce pardon et le faire dès aujourd'hui. Mais il ne faut pas tarder, il ne faut pas remettre à plus tard. Hein, parce que vous savez, le temps vient, et plus ça vient, et plus c'est compliqué, plus c'est difficile. Non pas parce que David est difficile, mais c'est parce que notre cœur s'endurcit. Vous savez, le cœur de Hanun, c'était ça son problème. C'est qu'il s'est endurci et obstiné de plus en plus. C'est pour ça que c'est devenu de plus en plus difficile pour lui. Mais aujourd'hui encore, eh bien, la porte de la grâce est ouverte pour ceux qui veulent se tourner vers ce Seigneur. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te remercions encore. Combien nous voyons que ta parole, ou que nous puissions l'ouvrir, nous parle de ce désir de salut que tu veux pour les hommes, Seigneur. Que tu veux pour les uns, que tu veux pour les autres, Seigneur. Ce désir puissant de délivrer. Ce désir puissant de pardon du péché, Seigneur. Oui, Seigneur, béni soit ton nom, mon Sauveur, parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, eh bien, tu veux accorder ta miséricorde. Aujourd'hui encore, tu veux agir avec compassion. Aujourd'hui encore, tu veux agir dans ton grand amour. Béni soit ton nom, mon Sauveur et mon Dieu. Alléluia. Et merci pour ton œuvre que tu fais encore maintenant pour chacune et chacun de ceux qui se tournent vers toi. Amen. Alléluia.